Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 8 octobre 1997 à Saint-Jeudard.
Dans le chemin d'existence, ceci est. Les sens atteignent le ceci et l'intelligence a atteint le est. Pouvez-vous expliciter? C'est ça. L'intelligence, son acte le plus naturel, c'est le jugement d'existence. C'est son acte. C'est ça qui caractérise l'intelligence. Ceci est, alors, voyez, notre intelligence est liée à nos sensations. Quand vous vous réveillez le matin, faites un peu de métaphysique quand même, hein. Réveillez-vous. Alors, le réveil peut être un peu brutal quelquefois, vous voudriez. Le réveil peut être, mais au fond, il y a un moment où vous vous réveillez, c'est que vous quittez l'imaginaire. Et quand on voyage, qu'on n'est jamais dans le même lieu, aussi, ah, où est-ce que je suis? Je prends des glissances. Je suis à Raymond, je suis à Saint-Jeudard, je suis à Paris, je suis à Marseille. C'est la première chose. Brouillard imaginaire, on est dans nulle part. Quand vous êtes dans votre imaginaire, vous êtes dans votre bulle. Vous savez pas où vous êtes. Puis tout d'un coup, dit, ah, voilà. C'est l'acte naturel, le plus naturel de l'intelligence. C'est réveillé par le toucher ou par les yeux. Vous voyez, il y a deux réveils très curieux de l'intelligence qui sont différents. Réveillé par la lumière, réveillé par le toucher. C'est les deux extrêmes de ma vie sensible. Le toucher et la vue. Alors, pour celui qui est aveugle de naissance, il y a des remplacements. Le toucher se développe beaucoup. Quand vous faites de la métaphysique avec un aveugle, c'est très curieux. Voir que le fantasme et les fantasmes ne sont pas les mêmes. Nos fantasmes, nous, même dans les cultures différentes, c'est curieux, c'est à partir de nos sensations. Vous avez des personnes qui sont visuelles. L'art de la peinture qui domine, ou l'art de la musique. Deux aspects très très différents. Et l'art de la sculpture, des tailleurs de pierre. Forgeron. Et comme artisanal, chacun des sens éveille l'intelligence différemment. Et la vue, c'est la détermination, c'est la lumière. La lumière est source de détermination. Ça conduit au ceci. Et le point de vue. ceci est dépassement de la détermination. Parce que quand vous dites ceci est, c'est toujours le ceci.
Réalité.
ce dépassement de toute détermination. Parce qu'il n'a pas de détermination, l'être. Il est au-delà. C'est ceci, ce pot de fleurs, ce pot de confiture. Le prieur qui vient me réveiller parce que je suis très en retard. C'est poutre, quand on visite la chartreuse, on montre, il y a toute l'imagination du chartreux très fatigué, qui ne se réveille pas. Alors, pour être sûr de se réveiller, à l'heure, à la place de sonner, c'est le toucher, une grosse poutre qui tombe sur les pieds. Alors, quand on est très habitué, il y a un réflexe. Le non-être vient à votre secours. Alors, vous voyez, on va toucher tout ça en faisant la critique de l'intelligence. On va essayer de comprendre comment mon intelligence est liée au toucher. Comment mon intelligence est liée à la vue, au regard. Comment est touchée à l'ouïe. Et c'est sûr qu'il y a des développements d'intelligence différents pour chacun d'entre nous. Et c'est bon de comprendre ça. L'éveil, c'est toujours l'être. Mais c'est pas la logique. La logique est différente dans les pays. Il y a une logique stoïcienne, il y a une logique aristotélicienne. Tandis que je ne peux pas dire qu'il y a une métaphysique aristotélicienne et une métaphysique stoïcienne, c'est vous. Il n'y a qu'une seule philosophie première. Philosophie de ce qui est. Tandis que la logique, c'est la relation. L'être de raison. L'universel. Or, l'universel, c'est l'un et le multiple. Et c'est la relation de l'un et du multiple. Parce que dans l'universel, il y a toujours un et le multiple. Unum in multa, in multis, ad multa. L'un dans le multiple, l'un provenant du multiple. Dialectique entre Héraclite et Parménide au sujet de l'être et du devenir. interprété par Vinick de deux manières. Et il y a les deux manières, historiquement. Celui qui interprète Parménide comme le contemplatif qui voit l'être dans toute sa pureté, au-delà de tout le devenir. Et vous pouvez interpréter, et d'un moins qu'ils font, Parménide comme celui qui, de fait, découvre l'être comme un au-delà du devenir et donc un peu comme il faut jusqu'à dire le néant, celui qui est sans détermination, celui qui est au-delà du devenir, celui qui est, vous voyez, l'infini, un infini qui n'existe pas, qui est l'imaginaire qui s'empare au-delà de toutes les déterminations. Certains positivistes interprètent Aristote Parménide comme ça. Je n'aime pas du tout cette interprétation, je crois qu'elle n'est pas vraie du tout. Je crois que c'est en fonction de la dialectique moderne qui dit ça. Mais parce que c'est vrai, on oppose devenir et être comme l'opposition fondamentale et première. Alors que je crois que Parménide et Héraclite, tous les deux, voient comment le devenir et l'être sont pour moi les déterminations fondamentales. L'être, l'au-delà du devenir, le devenir, ce qui est immédiat. À ce moment-là, vous voyez, ce n'est pas tellement la dialectique d'opposition, c'est le troisième, c'est moi. C'est le sujet face à l'être, face au devenir, c'est pas la même chose. La dialectique oppose être et devenir, sans regarder celui qui le regarde. Tandis que il y a une troisième position qui dit l'homme face à l'être, l'homme face au devenir, c'est pas la même chose. Et je crois que Héraclite et Parménide, c'est beaucoup plus l'homme face au devenir, l'homme face à l'être. L'homme face au devenir, Pandareï, Togul. On a tous fait cette expérience. Hein. Quand on n'a pas vu un paysage ou une ville depuis longtemps, ceux qui reviendront à Assise, et ceux qui ont vu avant. Mais il y a des changements, une guerre, des bombardements. Il y a des bombardements célestes, il y a des bombardements artificiels. Les bombardements célestes, c'est ce qui fait le plus peur à l'homme. Que la foudre vous tombe sur la tête. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Oh, les petits tremblements de terre qu'on a pu expérimenter. Et quand on est au troisième, au cinquième, le tremblement de terre est plus grand, vous comprenez. Hein. Quand on est dans la cave, les tremblements de terre sont faibles. Et quand on est au cinquième, et quand on est dans un immeuble, 15 étages, oh là là, c'est une fin du monde. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre tout de suite comment la dialectique naît à partir d'une abstraction. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui touche. C'est l'homme qui pense. Quand vous mettez l'homme qui touche et l'homme qui pense, vous n'avez plus une perspective dialectique. L'unité, c'est l'homme. L'homme est complexe. Et il est complexe. Il voit, il regardez plus l'homme, et vous regardez uniquement les résultats, alors vous avez une dialectique possible d'opposition du devenir et l'être. Et vous comprenez bien que cette opposition, ce n'est pas la réalité qui l'a fait, c'est vous. Parce que vous abstrayez. Alors vous faites l'opposition. La dialectique part du sujet qui fait l'opposition. Et il croit au bout d'un certain temps que cette opposition qui vient du sujet est objective. Mais non, c'est vous. Comment ne pas tomber dans l'erreur qui consiste à dire que l'affirmation ceci est n'est que la condition de l'intelligibilité d'une réalité qui en elle-même est dans le devenir. L'intelligence connaissant la réalité à une étape de son devenir plaquerait artificiellement l'être sur une réalité qui ne sera plus demain ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'elle est essentiellement dans le devenir. Et je viens d'y répondre. J'avais pas lu, mais c'était ça. Parce que c'est la naissance de la dialectique. Et la naissance de la dialectique me met dans la relativité. La dialectique n'atteint pas et ne peut pas atteindre l'absolu. C'est une opposition. Alors, oui, je relis pour que vous voyez bien comment ne pas tomber dans l'erreur qui consiste à dire que l'affirmation « ceci est » n'est que la condition de l'intelligibilité d'une réalité. Vous voyez, alors je dis tout de suite, attention, si vous êtes parfaitement lucide, quand vous dites « ceci est », vous pouvez être attentif à deux choses, à votre affirmation, à ce que vous signifiez. Les deux sont. Je peux être attentif quand je dis ceci est. Ce qui m'intéresse, c'est de dire cette réalité que je vois, que j'indique, ceci est. Elle est autre chose que moi. Elle existe autrement que moi. J'affirme ceci est. Je peux être tout entier attentif à mon affirmation. Je peux être tout attentif à mon affirmation. C'est moi qui affirme ceci est, c'est ça. C'est moi qui affirme ceci est. Et donc, si je n'existais pas, le ceci est n'existerait pas. Mais la réalité que j'affirme par le ceci est existerait. L'intelligence est autocritique parce qu'elle est consciente qu'elle s'exerce comme intelligence et qu'elle atteint quelque chose. C'est le propre de l'intelligence. Et ça, je ne peux pas le nier. C'est que quand je dis ceci est, j'affirme quelque chose. Si quelqu'un à côté de vous dit « Non, ça n'existe pas », c'est parce que tu l'affirmes, ça existe. Vous diriez « Alors, c'est une hallucination. » Vous voyez, vous vous critiquez vous-même. Et le jour où vous confondez vos hallucinations et vos affirmations, ça devient grave. Et le prochain est là pour vous aider, pour dire « Mon vieux, commence à confondre le réel et l'imaginaire. C'est grave. Mais tu es fatigué, ne t'inquiète pas. Dès qu'on est fatigué, on se rattrape par les hallucinations. Si c'est ça, c'est l'imaginaire. L'imaginaire, pour beaucoup, est en repos. Mais c'est dangereux. C'est pas un repos très repos. Parce qu'on s'aperçoit vite que c'est imaginaire, que c'est pas reposant du tout l'imagination. Oui, c'est ça qu'il faut arriver à saisir, qu'il y a dans l'intelligence quelque chose de très particulier, c'est qu'elle est consciente de son acte. Je suis conscient de toucher cette table. Le jour où je ne suis plus conscient de toucher cette table, ça prouve quelque chose qui ne va plus. Et tous les médecins diront, oui. Ils vous toucheront le doigt de pied. Hein. Est-ce que vous sentez que je touche votre doigt de pied? Et vous dites, ah non, non. Tiens. Alors il va remonter. Pas jusqu'au cœur, mais il va remonter pour voir si, à quel moment la conscience que vous avez qu'un autre vous touche existe. Mais normalement, vous avez conscience jusqu'au bout du petit doigt. Parce qu'il est très sensible. Plus sensible que le pouce. Et c'est ça, la médecine fait ça tout le temps. Vous allez dire, mais ça, mais ah, vous êtes idéaliste. Mais quoi, ça, qu'est-ce qu'il dira? Mais non, mais je vous regarde. C'est vous qui venez voir. C'est le philosophe qui commence à être idéaliste. Parce que le philosophe n'est pas médecin. Alors il croit que son idéalisme va plus loin, mais non, il décolle. C'est au fond ça la grande originalité de l'intelligence, c'est qu'elle est autolucide. Je suis lucide, ça, et ça c'est le propre à l'intelligence. Mais cette lucidité exige de comprendre que mon intelligence me met en présence de réalités qui ne sont pas moi, ceci est. Et que l'intelligence connaît ces réalités. Alors évidemment, vous le niez. Alors je vous envoie au médecin maintenant. Dire oui. C'est la folie qui commence. Qu'est-ce que c'est que le fou pour le médecin? Il faut de temps en temps visiter. Hein. C'est très reposant pour le philosophe. C'est très triste. Mais c'est très reposant parce qu'il dit, oui, c'est vrai. Quelle différence y a-t-il entre le fou qui n'arrive plus à distinguer le réel et l'imaginaire, et le philosophe qui distingue le réel et l'imaginaire? Mais quand le philosophe ne distingue plus le réel et l'imaginaire, on n'ose pas dire qu'il est fou. On le dit pour le pauvre type. Parce que lui, il la dégrade. Il n'en veut pas dire qu'il est imaginaire. Il faudrait dire que tout le jury a été un très mauvais médecin et n'a pas vu. Il perdait la tête. Mais il y a une autolucidité dans l'intelligence. Alors si vous n'acceptez pas cette autolucidité, vous n'accepterez plus que ce que vous sentez. Si vous acceptez cette autolucidité, vous acceptez que celui qui est à côté de vous, ce qu'il dit quelquefois, est plus précis que ce que vous dites, parce que votre regard commence à faiblir. Alors vous acceptez que quelqu'un à côté de vous peut voir mieux que vous. Autocritique. Mon intelligence, elle ne diminue pas à cause de mes sens qui diminuent. Parce que mes sens sont liés à un organe physique. Alors si un organe physique il se fatigue, la vieillesse n'est pas du côté de l'intelligence, en premier lieu. L'esprit ne vieillit pas. Mais la sensibilité vieillit. Et parce que la sensibilité vieillit, tous les sens n'ont plus la même acuité. Mais l'intelligence, elle le sait. connaissait bien la vieillesse de son corps. Mais ça, les médecins le disent, les hallucinations les plus profondes, c'est les hallucinations à l'égard du toucher. Les hallucinations les moins profondes, c'est au point de vue de la vision. C'est pour ça que les médecins, quand vous direz à un médecin que durant la nuit vous avez vu la Vierge Marie, il dira oui, hallucination. Vous l'aviez beaucoup prié hier, journée du rosaire. Alors, elle vous a accompagné durant la nuit. Et comme la nuit n'a plus le contrôle du jugement, c'est l'imagination qui brille. Voilà comment ils expliqueront une hallucination. Et c'est pas commode à répondre. Les hallucinations, c'est l'imaginaire qui passe avant le toucher. Et ce sont les déterminations de l'imaginaire qui passent avant le toucher. C'est avant le toucher, avant la vision, avant la vue, avant l'ouïe. Mais les paroles intérieures, pour un psychanalyste, pour un médecin, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est authentique? C'est pas commode à faire le discernement. Mais quand l'Église commence à douter de certaines visions, c'est parce qu'on se demande si on est en face d'un phénomène d'hallucination ou un phénomène réel. Mais c'est la question du moutos et du logos. Et c'est pour ça que ces choses-là sont très importantes, vous voyez. Si on ne comprend pas que l'intelligence naturellement est faite pour découvrir le ceci est, vous direz que naturellement l'intelligence est dépendante de l'imaginaire et l'hallucination est ce qu'il y a de plus réel dans ma vie. Alors ça devient dangereux. Si vous revenez à la source, au point de départ, c'est pour ça que c'est si important. C'est si important de regarder bien le point de départ de la métaphysique. Ceci est. C'est pas une hallucination. Si j'étais dans l'hallucination, je dirais le point de départ de la métaphysique, c'est ce que moi je considère comme ce qui est premier. Oui. La différence entre la vérité et la sincérité. Vous retrouvez ici, du côté de l'intelligence, quelque chose d'analogue. L'objectivité de l'intelligence, c'est du côté de la vérité. Et la sincérité, c'est du côté subjectif. C'est l'imaginaire qui passe. Quand les anciens disaient la nature, horreur du vide, c'est ça qu'elle voulait exprimer. C'est que si je ne suis pas en contact avec le réel, c'est l'imaginaire qui prend la place. Et je vis dans l'imaginaire, dans ma bulle. Là. Je vois tout à travers ça. Vous ne pouvez plus arriver à faire comprendre mes côtés. Attention. C'est votre affectivité, c'est votre imaginaire. Et vous ne voyez pas que et vous suivez comme un petit toutou. Il y a quelque chose d'extrêmement important là à saisir. Et c'est, je crois, la grande découverte d'Aristote. Mais Aristote n'a pas eu de vrais disciples. Après Aristote, c'est très difficile de rester jusqu'au bout de sa vie aristotélicien. C'est-à-dire, savoir que le point de départ de ma vie intellectuelle, c'est le ceci est. c'est d'affirmer que mon intelligence est faite naturellement pour discerner ce qui est objectif, réellement objectif, et ce qui est subjectif. Le subjectif, c'est le primat de l'imaginaire. L'objectif, c'est le primat de l'être. Mais dans cette distinction objective et subjective, qui n'existe pas chez Aristote, hein, c'est une distinction qui est arrivée beaucoup plus tardivement dans la philosophie. Parce qu'au fond, elle n'est pas très intéressante. Objectif et subjectif. On dira toujours qu'on est dans l'objectivité. Écoutez, on est dans l'objectivité. Il faut voir beaucoup plus. Ceci est. Et. Cogito. Mon cogito n'est pas ceci qui est. Ce qui vient de moi, ce que j'ai imaginé, si je suis un grand artiste. Prenez la distinction de l'objectif et du subjectif dans la connaissance artistique. Ce qui intéresse l'artiste et ce qui intéresse tous les amis de l'artiste, c'est ce que l'artiste a pensé. Le prophète. C'est ce que le prophète a pensé, c'est ça la réalité, c'est ça son objectivité. Mais ce n'est pas l'objectivité du philosophe. L'objectivité du philosophe, c'est de discerner ce qui vient de la réalité, ce qui vient de mon imaginaire. C'est ça qui intéresse le philosophe. C'est de saisir la réalité existante. Et il sait très bien qu'en saisissant cette réalité existante, il la modifie. Dans tout acte de connaissance, il y a une part subjective. Vous ne pouvez pas séparer l'objectivité de la subjectivité, puisque la connaissance vient du sujet. Donc elle est subjective. Alors, est-ce que cette objectivité remplace la réalité? Ou est-ce que cette subjectivité est tout simplement une conséquence que c'est mon activité, c'est ma vie de pensée? C'est pour ça que il faut bien comprendre que la métaphysique commence avec ceci et. Si je n'ai pas découvert ceci et, c'est très ennuyeux. Parce que je peux faire de la métaphysique en disant Aristote est un grand-père merveilleux parce qu'il est mort. Donc j'ai l'héritage. Donc Aristote est merveilleux. C'est un de ceux qui ont été le plus loin dans l'analyse. Je suis Aristote. Je répète Aristote. C'est déjà quelque chose. Vous avez une bonne monture qui vous permettra d'aller loin, mais ce n'est pas de la philosophie. Vous répétez, ce n'est pas de la philosophie. Alors, faites attention au début, hein, au début, c'est le propre du novice. Il ne connaît rien, donc il copie les autres. Vous n'allez pas dire, oh, la cloche sonne, tout le monde sort. Eh bien, moi, je ne sortirai pas pour que ce soit original. Vous pouvez faire ça peut-être un jour, mais ça sonne pour le réveil-toi. Eh bien, je n'irai pas, moi, pour que ça vienne de moi. Parce que la cloche, elle ne vient pas de moi. Ils obéissent tous à la cloche. C'est des moutons. Objectivité, subjectivité. Et on est pétri de ça. Il faut le dépasser. Comprendre que objectivité et subjectivité, attention, parce que le mélange existe partout. Pour un artiste, être objectif, c'est être subjectif. comment il copie. Pour un artiste, c'est ce qu'il a, son idée. C'est l'idée, son idée, qui lui donne son objectivité. Pour un philosophe, être philosophe, c'est essayer de saisir la réalité telle qu'elle est. Et dans ce qu'elle a de plus profond. En sachant très bien que le philosophe saisit cette réalité de telle manière et qu'il est unique à la saisir de cette manière. Parce qu'il a son individualité qui va jusqu'à sa manière de connaître. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vérité, pas du tout. Cela veut dire qu'on doit toujours être attentif à distinguer la manière dont quelqu'un atteint cette chose-là et ce qu'il atteint. Une distinction capitale qui revient tout le temps dans saint Thomas. Quand saint Thomas dit « distinguons l'aspect de la réalité, secundum rem, secundum modus significandi, la manière dont on saisit cette chose. » Et c'est net. La plupart du temps, on s'oppose parce qu'on ne fait pas cette distinction. Dès qu'on fait cette distinction, moi aussi je cherche la réalité. Ah bon alors, ah, dites-vous bien que vous vous êtes monté à 1000 mètres et vous avez regardé le clocher de votre village à 1000 mètres et l'autre l'a regardé directement. Il est à 1m50, 1m70, 1m80. La vision est différente. On ne va pas se disputer du tout. Si vous avez une photographie de quelqu'un qui est pris très haut, quelqu'un qui est pris rez-de-chaussée, ou sous-sol, parce qu'aujourd'hui c'est surtout le sous-sol, c'est l'abri. Alors de là, on ne va pas sortir en raison du sous-sol. Mais vous voyez, là, on ne se discute pas. Alors il faut arriver petit à petit, philosophiquement, à cette distinction. Aristote le premier. Ensuite, je vais très très rapidement, mais pour montrer quels sont les grands tournants. Ensuite, après Aristote, pas de successeur. Mais va naître des successeurs à Platon, beaucoup plus qu'à Aristote. Mais si je regarde la fécondité du platonisme et du néoplatonisme, et la fécondité d'Aristote et du néo-aristotélisme, Aristote est complètement battu. Suffrage universel. Si donc j'ai la loi du suffrage universel pour ma philosophie, soyons néo-platoniciens, tout le monde nous acceptera. Et c'est la situation dans laquelle s'est trouvé saint Thomas. Pierre Lombard est néo-platonicien. Et saint Thomas dit non, Avicenne est en partie néo-platonicien. Saint Thomas dit non, je cherche la vérité. Même si je suis seul, je cherche la vérité. Ça c'est très beau. Et c'est ce qu'on voit, on est pétri du suffrage universel. On commence seulement à mettre dans les yeux, écoutez, on se laisse conduire par les plus imbéciles parce qu'ils sont plus nombreux. C'est quand même curieux. C'est vraiment très curieux. Et alors après, on s'étonne qu'on va devant des catastrophes. L'Église, c'est pas le suffrage universel. Mais quand même un tout petit peu. La succession d'un pape se fait comment ? Par l'Esprit Saint, qui se sert du suffrage. cardinaux. Mais c'est, il faut réfléchir là-dessus. Alors, après Aristote, vous avez des diversités de philosophes qu'on verra en éthique. En métaphysique, il n'y en a plus. La seule métaphysique qui naît après, c'est le néoplatonisme de Plotin. Et Plotin est un très grand bonhomme. Et les pères de l'Église s'en ont beaucoup servi. Mais ce n'est pas le réalisme d'Aristote. C'est un néo-platonisme où il considère Platon, le divin Platon, il considère Platon comme celui qui est inspiré. Alors c'est une glose sur Platon. C'est quelqu'un qu'il faut, dans ses études, en troisième année de philosophie, il faut lire du Plotin, même quelquefois en seconde année du Plotin. C'est très beau du Plotin. Mais c'est un mélange d'Aristote et de Platon. Mais c'est Platon qui domine. Aristote a eu tort. Aristote est un hérétique comparativement à Platon. Aristote a tourné le doigt à Platon, il a eu tort. Alors le néoplatonisme a eu un succès énorme jusque maintenant. La plupart des esprits d'aujourd'hui sont néoplatoniciens. Et vous le voyez tout de suite. Parce qu'il y a confusion entre intelligibilité et réel. C'est la grande confusion de Platon. Ce sont les idées qui sont la réalité et la mesure de la réalité. Et dans tout le néoplatonisme, c'est ça. Grand phénomène, la révélation du Christ. Au plan philosophique, c'est le phénomène majeur. Parce que la chrétienté apporte une source nouvelle de vérité que le judaïsme n'avait jamais pu apporter. C'est très très curieux, un phénomène très extraordinaire de Pierre qui va à Rome. Le Sanhédrin ne va pas à Rome. Il reste. Il y a un phénomène très très curieux du judaïsme. Le peuple choisi, le peuple élu par Dieu, qui au moment où il doit choisir, il est fait pour ça, ne choisit pas. Il a peur. Il y a là un phénomène extraordinaire au point de vue de la pensée et au point de vue métaphysique. Et il faut tout le temps lire ce passage des Actes des Apôtres. Le phénomène particulier de la révélation judéo-chrétienne, de la révélation chrétienne tout court, qui implique le judéo, mais c'est le christianisme, la révélation de Jésus. Dieu qui se fait homme. Et Jésus dit qu'il est venu pour être témoin de la vérité. On aurait présenté Aristote, un homme qui dit, avant de mourir, qu'il est témoin de la vérité. Aristote qui cherche la vérité. Et les pères de l'Église n'ont pas peur d'assumer toute la culture grecque. D'assumer le stoïcisme en premier lieu, le néoplatonisme et l'aristotélisme. Et vous voyez alors à ce moment-là que le problème philosophique n'est plus premier. C'est vrai. Il faut bien voir ça. Le problème philosophique n'est plus premier. Le problème premier, c'est la foi, c'est le salut.